De Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, la risée, la colère et les leçons à tirer. La France accablée après les images de la finale de Ligue des Champions samedi. Réunion ce matin au ministère des Sports. Le préfet de Paris dénonce une fraude massive aux faux billets et saisit la justice, mais chacun son avis et sa défense dans cette affaire. Détail dans un instant. La chef de la diplomatie française en Ukraine, information France Inter, Catherine Colonna, est à Kiev. Première officielle française à s'y rendre depuis le début de la guerre. Dans ce journal aussi, un hôpital sans urgence et sans maternité. Ça fait 2 semaines que ça dure à Chinon et nous y serons. Et que dire de la situation des hôpitaux franciliens? On fera le point, Nicolas, avec votre invité.
Oui, le directeur général de l'assistance publique hôpitaux de Paris, l'APHP, Martin Hirsch à notre micro avec Léa dans une vingtaine de minutes. Avec vos questions, amis auditeurs, le standard ouvert vous attend. 01 45 24 7000.
Marie-Caroline Le Pen en campagne pour les législatives, la sœur de la finaliste de la présidentielle candidate à Neuilly, l'ancien fief de Nicolas Sarkozy. Ce sera notre carnet de campagne. Et puis le livre Inter. Dernière semaine avant délibération, on continue à faire le tour des auteurs en lice. Ce matin, Salomé Kinner, Grande Couronne.
France Inter.
Les supporters anglais, les policiers français, les organisateurs du match, les jeunes de Seine-Saint-Denis. Depuis plus de 24 heures, tout le monde se renvoie la balle du fiasco de samedi soir au Stade de France. Liverpool-Real Madrid, finale de Ligue des Champions, ça n'est pas le match qui restera dans les annales. Mais ce qui s'est passé à l'extérieur, public bloqué, intrusion dans le stade, intervention musclée des forces de l'ordre. Une pagaille indescriptible dont Stéphane Troussel, président du département de Seine-Saint-Denis, ne s'est pas remis.
Jamais je n'ai vu une telle désorganisation autour du Stade de France. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des événements et des grands événements. Ça fait 24 ans que le Stade de France existe. C'est la 3e finale de la Ligue des Champions qui est organisée. Je suis très en colère. Je ne veux pas que la Seine-Saint-Denis, ses habitants, soient les boucs émissaires de cette désorganisation. Et donc, oui, je réclame une enquête rapide, transparente, approfondie sur ces dysfonctionnements, cette désorganisation.
Stéphane Troussel sur France Info dès ce matin. C'est donc au ministère des Sports qu'on va tenter de comprendre ce qui s'est passé. La nouvelle ministre Amélie Oudéa-Castéra a convoqué l'UEFA, la Fédération Française de Foot et la Préfecture de Paris et la mairie de Seine-Saint-Denis, de la mairie de Saint-Denis, alors que personne manifestement ne veut assumer le fiasco Emma Sarango.
A commencer par le préfet de police de Paris qui attribue la responsabilité, je cite, à une fraude massive aux faux billets. Didier Lallemand donne même, dans un rapport transmis hier au ministère de l'Intérieur, une estimation entre 30 et 40 000 supporters munis de billets falsifiés. Une farce, répond Ronan Evin de Football Supporter Europe, une association régulière consulté par l'UEFA pour les grands événements, mais pas convié ce matin à la réunion au ministère. Il était l'invité de France Inter à 6h20.
C'est un chiffre qui est complètement fantaisiste. Il y avait quelques faux billets, il y avait surtout des fausses accréditations, mais en nombre tout à fait marginal. C'est un risque qui a même été évoqué en réunion de préparation par le club de Liverpool, par l'UEFA. Donc le rôle de l'APP, c'était de s'y préparer et pas aujourd'hui de nous expliquer que c'est quelque chose qui tombe du ciel. Cette théorie qui permet à la préfecture de police, au ministère de l'Intérieur, au ministère des Sports, d'accuser les supporters de Liverpool d'être responsables des mauvais traitements qui leur ont été infligés, c'est inacceptable.
Ronan Evin pointe aussi un problème de mobilité, de déplacement connu, là encore, autour du Stade de France, accentué samedi par la grève du RERB. Les supporters contraints d'arriver par le RERD n'ont pas été suffisamment bien orientés, créant un goulet d'étranglement devant l'une des entrées, tandis que l'autre était vide. Et puis l'autre sujet qui devrait être abordé lors de la réunion tout à l'heure, c'est le manque de stadiers chargés de faire respecter le règlement dans l'enceinte. Lors de la pandémie, les stades étant fermés, beaucoup se sont réorientés. Et il y a donc effectivement aujourd'hui un problème de recrutement et de formation de ces agents.
Voilà, le tout à un an de la Coupe du Monde de rugby et à 2 ans des Jeux Olympiques en France. Autre stade, autre scène de violence. La saison de foot se termine comme elle a commencé en France. C'était hier soir Saint-Étienne-Auxerre, un match de barrage. Les Verts relégués en Ligue 2 après les tirs au but et leurs supporters qui envahissent le terrain furieux. Jets de fumigène et de feux d'artifice sur les tribunes. Évacuation à coups de gaz lacrymogène utilisé par les forces de l'ordre. Sofiane, membre de la sécurité du club de Saint-Étienne, a fait ce qu'il a pu.
On était un petit groupe de 5-6 contre une trentaine d'agents, une trentaine de personnes qui voulaient forcer avec des outils qui étaient là, ils nous ont failli taper, donc on s'est défendu, puis voilà, on a reçu des coups, mais bon après voilà, hein, c'est comme ça. Après les CRS sont venus et ils nous ont donné de l'aide. On a réussi à sécuriser le périmètre, on a mis des chaînes cadenassé, et puis voilà, on a fait l'essentiel. D'en arriver là, c'est terrible, parce qu'ils ont gazé et il y avait des enfants, des bébés, des nourrissons. Moi, j'ai vu un berceau et c'est malheureux. D'en arriver là, pourtant, ça reste du sport. On est peut-être passionné, on est peut-être... ça arrive, hein, mais là, c'est abusé. J'ai vu la personne avec son berceau partir en courant. C'est pas possible, quoi. C'est insupportable. Ça reste du foot, hein, comme je vous ai dit, ça reste du sport, mais bon. C'est malheureux d'en arriver là.
Témoignage au micro de Cédric Guillou. Et voilà donc pour cette trop longue page foot et incident.
Il est 8h06. Soutenir l'Ukraine, c'est aller à Kiev. Mais qui a fait, Florence, le voyage depuis la France?
Boris Johnson, Olaf Scholz, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, ou encore Ursula von der Leyen, la présidente de l'Union européenne. Ils y sont tous allés, mais pas Emmanuel Macron, ni ses ministres. Jusqu'à ce jour, Catherine Colonna, la nouvelle ministre des Affaires étrangères, vient donc d'arriver à Kiev. Information France Inter. Bonjour Thibault Lefèvre.
Bonjour Florence.
Vous êtes sur place et c'est donc la première visite officielle française depuis le début de la guerre, il y a plus de 3 mois.
Oui. Le train, oui, de nuit est parti hier soir de Pologne. Il doit arriver, hein, d'une minute à l'autre. Il y a un peu de retard. Et la première étape de cette visite surprise, eh bien, c'est la ville martyre de Boutcha. C'est au nord-est de Kiev, presque 2 mois après la découverte des charniers. Une délégation diplomatique française va donc pouvoir, à son tour, témoigner de l'horreur. Catherine Colonna est attendue en fin de matinée près des fosses communes creusées pendant l'occupation russe. Retour ensuite à Kiev, devant le mur des héros, avec ses milliers de photos de visages de soldats morts depuis le début de la guerre en 2014 entre l'Ukraine, la Russie et ses alliés séparatistes dans le Donbass. L'émotion donc avant les discussions, car la ministre rencontrera dans l'après-midi son homologue ukrainien Dmytro Kuleba, puis Volodymyr Zelensky. Il n'y aura en revanche pas de conférence de presse avec le président ukrainien. Elles sont jusqu'à maintenant réservées aux chefs d'État et aux responsables des plus hautes instances internationales.
Et ce que vous nous dites, Thibault, c'est qu'en réalité, les Ukrainiens, c'est Emmanuel Macron qu'ils attendent.
Oui, et c'est une absence qui commence sérieusement à se voir. Alors que vous l'avez dit, une cohorte de chefs d'État ou de ministres sont déjà venus ici. Emmanuel Macron est attendu pour dissiper des incompréhensions, voire régler des désaccords. Le projet de communauté politique européenne avec un statut de membre particulier pour l'Ukraine a froissé Volodymyr Zelensky. La médiation française avec Moscou continue, avec en toile de fond le spectre de concessions territoriales pour négocier une paix durable. Elle est rejetée par les Ukrainiens. Et puis, il y a l'aide militaire, les sanctions européennes contre la Russie. Autant de sujets donc qui seront abordés cet après-midi par Catherine Colonna et Volodymyr Zelensky.
Thibault Lefèvre en direct de Kiev avec Alexandra Bergel. La France qui soutient l'Ukraine tout en ménageant le dialogue avec Vladimir Poutine. Voilà ce qu'a tenté de faire Emmanuel Macron pendant les premières semaines de guerre. Faire la paix sans humilier la Russie, disait encore le président le 10 mai. Ce qui n'a pas empêché le chef de la diplomatie russe de s'en prendre à la France. Sergueï Lavrov, ou la rhétorique du Kremlin. C'était hier soir sur TF1.
Je dois dire à mon grand regret que malgré la visite du président Macron et les bonnes relations de confiance entre lui et le président Poutine, la France joue un rôle actif en Ukraine. Elle alimente le nationalisme et le néo-nazisme ukrainien. Nous sommes tristes de le constater. La France arme directement l'Ukraine, y compris avec des armes offensives, et elle réclame une guerre jusqu'au bout pour vaincre la Russie.
Et d'armes, il sera question cet après-midi entre les chefs d'État et de gouvernement européens en achetés à 27 pour faire face à la menace russe, ça semblant en bonne voie, alors que l'embargo sur le pétrole russe, lui, ne fait toujours pas l'unanimité. Des semaines que les Européens en parlent, Bertrand Galichet, mais la Hongrie continue à bloquer, quitte à fragiliser l'unité des 27.
Les relations conflictuelles de la Hongrie avec Bruxelles et la proximité politique entre Viktor Orban et Vladimir Poutine n'expliquent pas tout. Cette fois, le dirigeant hongrois avance des arguments chiffrés pour s'opposer à l'embargo réclamé avec insistance par l'Ukraine. Les 2/3 du pétrole consommé en Hongrie arrivent du sud-est de la Russie via l'oléoduc Druzhba, un approvisionnement vital pour l'économie hongroise. Afin de sauvegarder l'unité des Européens, une dérogation de 2 ans a été proposée à Viktor Orban. Insuffisant, répond le dirigeant hongrois, qui réclame 2 fois plus de temps, ainsi qu'un chèque de 800 millions d'euros pour adapter les raffineries du pays. Mais Bruxelles ne peut pas accepter. Après avoir bloqué le plan de relance post-Covid destiné à la Hongrie pour cause de manquement à l'état de droit, reste 2 solutions pour sauvegarder l'unité européenne. Limiter l'embargo au pétrole russe arrivant par la mer ou reporter de quelques semaines les nouvelles sanctions contre Moscou.
Bertrand Galichet, du pétrole, on en a consommé en masse hier dans les embouteillages des retours de week-end de l'Ascension. 934 kilomètres de bouchons cumulés vers 18h. Les Français avaient manifestement envie de prendre l'air.
Et une fois rentrés à la maison, cette question, Florence, qu'est-ce qu'on fait si on a besoin d'aller à l'hôpital?
Bordeaux, Nevers, Orléans, les fermetures temporaires de maternité ou de services d'urgence se multiplient parce qu'il manque des soignants. À Chinon, en Indre-et-Loire, maternité et urgence ont fermé il y a bientôt 2 semaines, sans date de réouverture pour l'instant. Et c'est un coup dur pour toute la commune et ses alentours. Faustine Calmel.
Sur le marché, il n'est pas difficile de trouver des patients ayant récemment fréquenté les urgences. Pour Cédric, c'était réaction allergique à une piqûre d'abeille juste avant la fermeture du service.
Si j'avais le même cas maintenant, ce serait embêtant. Le fait qu'il y ait un hôpital, ça fait partie de toutes les commodités qu'on peut apprécier d'une ville de taille moyenne.
La fille de Cédric, Olympe, 16 mois, a été suivie à la maternité. Un hôpital de proximité, c'est aussi ce qui a convaincu Nicolas de s'installer ici.
Il fallait qu'on soit dans une ville où il y a hôpital, maison de retraite, un accès facile aux médecins, à tout.
Il a terminé son déménagement le mois dernier.
Et on découvre que c'est difficile de trouver un médecin, c'est difficile de se projeter s'il n'y a plus d'urgence demain. On se dit, il nous arrive quelque chose, on va où? Est-ce qu'il faut courir à Tours?
Les urgences enregistrent 46 passages par jour en moyenne. 652 bébés sont née à la maternité l'an dernier. Cette fermeture est provisoire, tempère le maire, président du conseil de surveillance de l'hôpital. Mais Jean-Luc Dupont reconnaît que c'est un mauvais signal pour les nouveaux arrivants, dont les deux principaux critères d'installation sont la 4G et la santé.
C'est en fin de compte un hôpital de proximité qui joue un rôle essentiel en termes d'attractivité, parce que les gens qui veulent s'installer, ils ont la volonté d'être pris en charge de la meilleure des façons, et la santé est un axe sur lequel ils sont très regardants.
Le maire espère une réouverture des services dès cette semaine.
Faustine Calmel, et voilà un sujet de campagne hein, pour les législatives à 2 semaines du premier tour. Ce matin, arrêtons-nous dans les Hauts-de-Seine. 6e circonscription, celle de Neuilly-sur-Seine plutôt. L'ancien fief de Nicolas Sarkozy, où la candidate LR sortante a rejoint subitement début mai le parti présidentiel, provoquant vexation et dissidence. Sous l'œil d'une revenante, Marie-Caroline Le Pen, sœur aînée de Marine Le Pen, déjà 2 fois candidate dans les années 90. Élodie Forêt.
Marie-Caroline Le Pen a repris goût au combat politique. Ombre de sa sœur pendant la présidentielle, elle se présente désormais là où elle a déjà été candidate en 1993 et 1995.
J'avais mis Sarko en ballottage à l'époque, donc c'est pour ça que je m'en souviens.
Nicolas Sarkozy, ombre lointaine ce matin-là sur le marché de Neuilly, où 50 nuances de droite s'affrontent depuis que Constance Le Grip, députée sortante, a lâché son étiquette LR.
Depuis un mois, on tractait pour Constance.
Patrick Pessis, nouveau candidat Les Républicains, raconte.
Il y a 10 jours, un dimanche, j'organise un tractage. On prend un verre avec Constance. Il est 13h. Le soir, on apprend par la presse que Constance passe chez Macron.
Dès qu'il y voit, les gens poussent la porte.
Candidate officielle d'Emmanuel Macron, peut-on effectivement lire désormais sur la devanture de la permanence de Constance Le Grip, qui défend un choix cohérent.
Je n'ai par exemple pas voté contre la déclaration politique générale de Jean Castex, parce que je me retrouvais dans beaucoup des choses que disait Jean Castex.
Des arguments inaudibles pour Martine, électrice de droite.
Ça me horrifie.
Comme pour Faïza Basini, marcheuse historique.
Il y a ceux qui sont investis et ceux qui se sont investis.
Qui a maintenu sa candidature, tout comme le publicitaire Franck Tapiro ou le dissident LR Benoît Aglon. Marie-Caroline Le Pen savoure.
À part moi, tout le monde a appelé à voter Macron.
Espérant profiter de la division pour prospérer sur un territoire pourtant défavorable au RN.
Élodie Forêt, tiens, comme on se retrouve un quart au goût de finale demain. Roland Garros, Nadal Djokovic, dans l'après-midi sur France Télé ou bien le soir sur Amazon et sur abonnement. La décision tombera dans la journée. Nadal, vainqueur du Canadien Auger Aliassime hier soir en 5-7 et 4h30 de jeu. Ce fut beaucoup plus simple pour le jeune prodige Alcaraz face au russe Khachanov, 3-7 gagnant pour une place en quart de finale et un rendez-vous avec Zverev, le numéro 3 mondial. Qui va gagner? Là, on parle du prochain prix du livre Inter. On le saura ici même, lundi prochain, dans une semaine. Mais d'ici là, on continue à vous présenter les 10 livres en compétition, ou plutôt leurs auteurs qui nous parlent de leurs écrits. Ainsi, Salomé Kinner, Grande Couronne, c'est son premier roman.
Je dirais que Grande Couronne, c'est l'histoire d'une adolescente qui rêve de s'acheter les mêmes baskets que ses camarades de classe, et qui donc va mettre en place des stratagèmes pour augmenter ses revenus en cachette de ses parents et qui va se retrouver prise dans un réseau de passes qui est organisé par des jeunes gens de son lycée. Et elle va aussi faire différentes expériences d'amitié. Elle va tomber amoureuse d'un garçon avec lequel elle va essayer de vivre sa première histoire d'amour. C'est un roman d'apprentissage. Le vrai sujet du livre, pour moi, c'est la société de consommation. Ce qui était important de dire, c'était l'humiliation de pas ressembler aux autres quand on est adolescent. Elle peut être tellement violente que ces activités-là vont passer au second plan par rapport au désir fou de vivre la vie de celles qui nous paraissent pouvoir accéder à la société de consommation.
Voilà, Salomé Kinner avec Eva Béton qui concourt pour le prix du livre inter. Enfin, quand on s'éloigne de l'adolescence, ce serait plutôt le contraire, Nicolas. C'est si bon de se singulariser. Ainsi, cette grand-mère suédoise est-elle devenue hier à 103 ans la personne la plus âgée à sauter en parachute en tandem. Atterrissage en douceur avec son déambulateur pour l'aider à se relever. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Comment elle va fêter ça? Eh bien, avec un petit gâteau, Nicolas.
Ah, formidable.
Au sucre.
Merci Florence Paracuelos. On tente ça, Marie-Pierre Planchon,
oui,
ensemble.
Comme vous voulez.
Il est 8h16, la météo.
La météo, avec Air France. Cet été, envolez-vous en toute sérénité vers plus de 1000 destinations. S'envoler en toute élégance. Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Voilà, on a déjà l'avion, un lundi matin ensoleillé.
Et oui Nicolas, mais avec ce ciel dégagé, on subit un bon petit coup de frais. 0 seulement Lorraine, 1 à Guéret dans la Creuse, 2 en Haute-Loire, 3 à Abbeville, 4 à Charleville-Mézières, pas plus de 8 à Quimper et à Paris, mais déjà 17 à Ajaccio, 19 à Antibes. Et au fil de la matinée, on va voir des nuages circuler au nord de la Seine, pouvant donner une averse près des côtes de la Manche, vers la Seine-Maritime et près de la frontière belge. Et ce matin, sur la moitié sud, le ciel est voilé mais lumineux, excepté sur les Pyrénées où les nuages déjà donnent quelques averses.
Et un ciel de plus en plus voilé sur le sud dans l'après-midi.
Oui, qui annonce la dégradation orageuse sur l'Atlantique, qui se rapproche doucement mais sûrement et qui donnera un ciel menaçant déjà aujourd'hui sur les Pyrénées avec des orages et une ambiance qui deviendra lourde en soirée sur l'Aquitaine et l'Occitanie. Orages également prévus sur le relief corse et celui des Alpes-Maritimes. Ailleurs, ce sera un lundi ensoleillé avec quelques cumulus d'altitude et près de la Manche, un peu plus d'averses de la Bretagne au Cotentin à la Côte d'Opale. Et donc cet après-midi, ça va remonter un peu du côté du Mercure, mais on sera toujours 3 à 4 degrés en dessous des normales de saison. Au minimum 15 à Cherbourg, 16 au Havre, vous aurez 17 à Roubaix, 19 à Paris, 20 à Rennes, 21 à Bayonne, comptez 24 à Bordeaux et Nice, 26 à Narbonne, 28 à Carcassonne et à Avignon et 29 à Marseille.
Marie-Pierre Planchon, merci.